Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris Barin. Père Boris Barin, bonjour.
Bonjour, ou bien Fale Nisi Maria, comme les gens se saluent ici, ce qui veut dire loué soit Jésus et Marie. Heureux de vous retrouver, chers amis auditeurs de Radio Maria France, pour d'une part commenter le message, vous donner aussi quelques petites nouvelles de Medjugorje. On va commencer par ceci. Tout d'abord, je dois vous dire que en ce moment, nous avons une affluence à peu près record. C'est-à-dire que déjà fin avril, l'esplanade où a lieu donc la messe en plein air, tout est rempli. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui sont là aux messes du soir tous les jours depuis donc fin avril. Déjà au mois de mars, nous avions beaucoup de monde, mais c'est normal vu que c'était le carême, la préparation de Pâques. Les chiffres officiels nous disaient qu'au mois de mars, il y avait 150 000 communions qui ont été distribuées. Il est possible qu'en avril ce soit plus, on n'a pas encore les chiffres officiels. 63 prêtres par jour ont concélébré au mois de mars en moyenne. Très certainement que nous acheminons vers une année record, étant donné que les pèlerins qui devaient aller en Terre Sainte, pour les raisons que nous connaissons, donc ne peuvent pas y aller, et certains se rabattent sur Medjugorje. Déjà que la période creuse, la période hivernale, a été très très courte, donc maintenant nous avons vraiment beaucoup beaucoup de pèlerins. Concernant les pèlerins francophones, il y en a d'à peu près tous les pays, de tous les continents, d'Afrique, du Liban, des dom-tom, beaucoup, avec en particulier les Tahitiens, je pense que je vous en avais parlé déjà, des gens de la Réunion, de la Guyane, donc vraiment les dom-tom étaient très bien représentés, et la France métropolitaine également, avec des pèlerins alsaciens assez nombreux, des pèlerins du Sud. Le diocèse du Morbihan se prépare à venir pour l'anniversaire des apparitions et nous avons eu là un pèlerinage du Nord-Pas-de-Calais. Donc vraiment les quatre coins de l'Hexagone étaient représentés, sans compter voilà les grandes villes comme Paris, Lyon par exemple. Donc nous avons beaucoup de pèlerins. Certains sont là pour la toute première fois et se demandent pourquoi est-ce qu'à la fin de la messe, on prie à Medjugorje le credo et les sept pater, Ave Maria, Gloria Patri. Alors, peut-être que certains d'entre vous se posent aussi la question. Un jour, on a posé la question à la voyante Maria qui avait dit ceci. Elle disait qu'au début des apparitions, lorsque nous attendions la Sainte Vierge, nous commencions par prier le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père. Et à plusieurs reprises, la Sainte Vierge est apparue au moment du septième Notre Père. Et par la suite, elle nous a demandé, disait Maria, de dire cette prière, vous voyez, donc des sept paters, en y ajoutant le credo. Et Maria concluait en disant « Aujourd'hui encore, nous la disons tous les soirs dans l'église à la fin de la messe, et ce en nous mettant à genoux en signe de remerciement pour sa présence et pour lui montrer aussi que nous avions confiance en elle et pour nous placer sous sa protection. Plus tard, nous avons découvert que cette prière était une prière que disaient déjà nos grands-mères, tout comme la prière à Notre-Dame des Sept Douleurs. » Et de fait, à la fin de chaque messe, le prêtre qui préside l'Eucharistie du soir, donc demande à l'assistance, donc aussi bien aux pèlerins qu'aux gens de la paroisse, de se mettre à genoux pour dire cette fameuse prière des sept Notre Père. Voilà, donc si éventuellement vous venez à Medjugorje, ce que je vous souhaite, et je serai heureux de vous accueillir, ne soyez pas surpris par cette pratique que l'on ne trouve pas ailleurs, si ce n'est donc ici à Medjugorje. Comme autre nouvelle, peut-être simplement des infos, c'est-à-dire que la prochaine retraite internationale pour les prêtres qui aura lieu du 1er au 5 juillet 2024 aura pour thème Marie qui a choisi la meilleure part. Elle commencera le 1er juillet. C'est un lundi. À partir de 16h auront lieu les inscriptions et à 18h commence la retraite par un temps de prière suivi donc de la messe internationale. Et je rappelle que cette retraite est gratuite pour les prêtres. Ils ont juste donc le transport à payer. Et si vous, amis auditeurs, connaissez un prêtre que ça pourrait intéresser, si vous pouvez donc éventuellement même l'aider à venir à payer le transport, je pense qu'il sera ravi de pouvoir venir ici et de découvrir ce qui se vit donc à Medjugorje. Donc n'hésitez pas à pouvoir en aider certains qui soit n'osent pas y aller tout seul, soit n'ont pas les moyens. Le Festival international des jeunes, comme chaque année, aura lieu du 1er au 6 août 2024 pour cette année. Et sur ce modèle a lieu chaque année un événement parisien destiné aux jeunes qui s'appelle Match Do It, sur le modèle donc du Festival des jeunes. Cette année, il aura lieu un petit peu plus tôt, c'est à la fin du mois, le 31 mai, 1er et 2 juin. Ça se passe à l'église Saint-Charles de Monceau. Si sur Internet, vous, sur un moteur de recherche, vous tapez Medj Do It Paris, vous allez évidemment recevoir toutes les infos nécessaires. Voilà, la partie donc nouvelle est aujourd'hui un petit peu plus courte, très certainement que le mois prochain, étant donné qu'on sera que le mois de mai, le mois de Marie sera passé, eh bien, j'aurai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Alors le message du 25 avril dernier confié à Maria était le suivant. Chers enfants, je suis avec vous pour vous dire que je vous aime et pour vous encourager à la prière, car Satan est fort et sa force est chaque jour plus forte à travers ceux qui ont choisi la mort et la haine. Vous, petits enfants, soyez prière et mes mains d'amour étendues vers tous ceux qui sont dans les ténèbres et qui cherchent la lumière de notre Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, ce message qui nous est donné donc dans le temps pascal commence tout d'abord par nous rappeler que la Gospa nous aime. Je suis avec vous pour vous dire que je vous aime. Alors, elle nous l'a dit tellement de fois, mais comme il est bon de l'entendre de nouveau. Un jour, elle a même dit, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. Et c'est la première chose dont il faut être vraiment, vraiment convaincu, c'est qu'elle nous aime de tout son amour maternel. Elle vient vers nous donc par amour et dans un but précis. Elle nous l'a dit plusieurs fois auparavant. Je vous cite simplement deux messages, un confié à Mirjana et un confié à Maria. Celui confié à Mirjana, c'était pour son anniversaire il y a 4 ans, le 18 mars 2020. Elle nous disait ceci. Chers enfants, mon fils, en tant que Dieu, a toujours regardé au-delà du temps. Moi, sa mère, à travers lui, je vois dans le temps, je vois de belles choses et des choses tristes, mais je vois qu'il y a encore de l'amour, et cet amour doit être manifesté. Mes enfants, vous ne pouvez pas être heureux si vous ne vous aimez pas les uns les autres, si vous n'avez pas d'amour en toute situation et à chaque instant de votre vie. Et moi, en tant que mère, je viens vers vous par amour, pour vous aider à connaître l'amour véritable, à connaître mon fils. C'est pourquoi je vous appelle à renouveler toujours davantage votre soif d'amour, de foi et d'espérance. La seule source de laquelle vous pouvez boire est celle de la confiance en Dieu, mon fils. Mes enfants, dans les moments d'insécurité, de renoncement, il vous suffit de rechercher le visage de mon fils. Il vous suffit de vivre ses paroles et alors n'ayez pas peur. Priez et aimez avec des sentiments sincères, avec de bonnes œuvres. Aidez le monde à se transformer et mon cœur à triompher. Tout comme mon fils vous le dit, moi aussi je vous le dis, aimez-vous les uns les autres, car sans amour, il n'y a pas de salut. Je vous remercie, mes enfants. Voilà, elle nous dit qu'elle nous aime, qu'elle vient par amour et nous invite donc à aimer. Le 25 novembre 1987, elle confia à la voyante Maria ce message. Chers enfants, aujourd'hui encore, je demande à chacun d'entre vous de se décider à nouveau et de s'abandonner complètement à moi. Seulement ainsi pourrai-je moi-même présenter chacun à Dieu. Chers enfants, vous savez que je vous aime sans mesure et que je désire chacun pour moi. Mais Dieu a donné à tous la liberté et je la respecte avec amour. Je me soumets dans mon humilité à votre liberté. Je souhaite, chers enfants, que vous m'aidiez pour que tout ce que Dieu a pensé pour cette paroisse se réalise. Si vous ne priez pas, vous ne pouvez découvrir mon amour et les plans que Dieu a pour cette paroisse et avec chaque individu. Priez pour que Satan ne vous attire pas dans son orgueil et sa force mensongère. Je suis avec vous et je désire que vous croyez que je vous aime. Merci d'avoir répondu à mon appel. Donc là aussi, vous voyez, chers amis auditeurs, elle nous rappelle la force de son amour, qui est vraiment un amour sans mesure, donc incommensurable, et elle invite à prier, tout comme dans le message dernier. Cette invitation à la prière a en fait deux objectifs. Premièrement, de découvrir vraiment l'amour de Dieu et son plan pour chacun de nous, et aussi pour que Satan ne nous trompe pas. Alors, Satan, premièrement, il faut être conscient qu'il existe. Et peut-être que la plus grande séduction de Satan est d'amener les gens à croire que justement il n'existe pas. Et du coup, qui va chercher à se protéger contre un ennemi qui serait pas réel? Il est étonnant de voir combien de gens qui pourtant prétendent être chrétiens ne prennent pas au sérieux la réalité du diable telle que la Bible en parle et les preuves bibliques, elles sont très très nombreuses. Ça devrait être un appel puissant pour chacun d'entre nous. Je n'ai pas le temps ici de vous énumérer donc combien de fois donc la Bible parle de l'adversaire de Satan. Jésus lui-même donc en parle et ce serait très intéressant de faire une petite recherche dans les évangiles sur tout ce que dit Jésus donc à ce sujet. Je retiens simplement que Jésus le qualifie de père du mensonge. Satan est menteur. Il est trompeur de mille manières et veut nous détruire, nous disait la Vierge Marie dans un autre message. Le 25 septembre 1990, elle disait: Chers enfants, je vous appelle à la prière avec le cœur pour que votre prière soit un dialogue avec Dieu. Je souhaite que chacun d'entre vous consacre davantage de temps à Dieu. Satan est fort. Là aussi, elle nous le dit souvent. Il veut vous détruire et vous tromper de mille manières. Ainsi, chers petits enfants, priez chaque jour afin que votre vie soit un bien pour vous-même et pour tous ceux que vous rencontrez. Je suis avec vous et je vous protège. Bien que Satan veuille détruire mes plans et arrêter les désirs que le Père céleste veut réaliser ici. Merci d'avoir répondu à mon appel.
Père Boris, vous étiez en train de nous expliquer, suite à la lecture du message du 25 avril, que un des deux buts de la prière, c'est de se protéger contre Satan, Satan qui, dont l'existence est niée même par certains chrétiens.
Oui, certains chrétiens et même quelques prêtres hein, qui ne voient là qu'une réalité symbolique du mal. Or, à Medjugorje, la Vierge Marie donc prend soin de rappeler que Satan existe. La voyante Mirjana a même eu donc une rencontre et la Vierge Marie s'est excusée juste après en lui disant: Excuse-moi pour ceci, mais tu dois savoir qu'il existe. Alors, non seulement il existe, mais il est surtout très très actif et il cherche à tromper, il cherche à séduire pour détourner donc les gens de Dieu. Et plusieurs fois dans ses messages, y compris donc dans le dernier, eh bien la Vierge Marie nous dit que Satan est fort. Je vous donne par exemple le message du 25 mai 1995. Elle nous disait ceci: Chers enfants, je vous appelle, aidez-moi par vos prières à rapprocher de mon cœur immaculé le plus de cœurs possible. Satan est force
est fort, et de toutes ses forces, il désire rapprocher de lui et du péché le plus de personnes possible. C'est pourquoi il se tient aux aguets pour s'emparer à chaque instant de plus de personnes. Je vous en prie, petits enfants, priez et aidez-moi à vous aider. Je suis votre mère et je vous aime. C'est pourquoi je désire vous aider. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et on retrouve à peu près les mêmes thèmes que dans le dernier message. C'est-à-dire qu'elle nous redit tout son amour maternel. Elle nous dit aussi très fortement qu'elle désire nous aider parce que, eh bien, Satan est fort et il se tient aux aguets. Donc, il est très, très actif. Il faut en être conscient. Je reviendrai donc sur ce thème un tout petit peu plus tard. Simplement, donc, il est actif, il séduit, il ment, sa force est justement le mensonge. C'est peut-être l'arme principale de Satan contre les enfants de Dieu. Il est menteur depuis le commencement, c'est pourquoi Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, l'appelle le père du mensonge. C'est lui qui a trompé en mentant Ève. Et il a dit, mais si vous pouvez manger de l'arbre que Dieu dit de ne pas en manger, parce que quand vous en mangerez, au contraire, vous serez comme des dieux. Et il ment en particulier aussi à tous ceux qui traversent des doutes et des épreuves pour leur faire croire que Dieu ne s'occupe pas d'eux. Il leur dit, mais votre Dieu, il est loin, il est là-haut au ciel, il prend pas soin de vous, vous êtes en pleine épreuve. N'allez pas chercher de l'aide de Dieu, il ne vous écoutera pas. C'est complètement faux. D'accord. Ou bien, il va dire facilement que eh bien, ce n'est pas la peine de lire la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de la connaître, parce que ça a été écrit il y a longtemps, et on ne sait même pas d'ailleurs si ce qui est écrit est vrai. C'est peut-être juste un peu comme un roman, comme un symbole. Et ça, c'est pas d'une grande utilité. Là aussi, c'est complètement faux. La parole de Dieu est une parole de vie, et Jésus nous dit que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va aussi facilement dire aujourd'hui, eh bien, n'écoutez pas l'Église. Vous voyez bien qu'elle est composée de gens qui sont pécheurs, qui sont même entre guillemets un peu pourris. Et dans l'Église, vous n'allez rien trouver de bon. Si ce n'est que des pressions qui sont faites sur vous pour vivre selon une certaine morale et tout ça. Et il ne dit pas que l'Église est d'abord l'Église de Jésus-Christ, que Jésus a choisi. C'est par elle qu'il veut donc irriguer son Église à travers les sacrements qu'il a confiés donc à son Église. Alors il a comme ça toute une série d'astuces. Hein. Dans un des messages il y a longtemps, la Vierge Marie elle disait qu'il a 1000 façons de nous tenter. Et en plus de ça, donc, il y a toujours un léger fond de vérité, c'est-à-dire qu'il se cache sous une apparence de bien. Sinon, ce serait trop facile de le démasquer. Et l'apôtre Paul, il va même dire dans la deuxième épître aux Corinthiens que Satan se fait passer pour un ange de lumière. Vous voyez, il sait parfaitement bien se déguiser. Et donc, si nous ne faisons pas attention, si nous ne prions pas, si nous ne sommes pas vigilants, eh bien, on va facilement donc être trompé. Et il est menteur. Là, je vais vous donner un petit exemple qui s'est passé à Medjugorje une année, il n'y a pas très longtemps. Est arrivée une personne possédée et elle a voulu se confesser et les démons qui étaient en elle l'ont empêchée de prononcer l'acte de contrition. Elle est arrivée à dire ses péchés, mais impossible de poser un acte de contrition, c'est-à-dire de regretter ses péchés. Là, ça a explosé. Et Satan a dit au prêtre qui la confessait, qui est mon voisin de table, un frère franciscain, donc qui me racontait ça, il me disait, Satan a dit, elle m'appartient, elle est à moi. Et le frère, sans se laisser démonter, lui a dit, non, 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 elle appartient à Jésus, toi, tu es à moins que rien. Ti si nitko e ništa. Il lui a dit en croate, ce qui veut dire, tu n'es personne et rien du tout. Et donc, surtout, ne pas se laisser avoir par ces tactiques. Il essaye de faire peur aux gens. Hein, et de fait, il faut être averti. L'apôtre Pierre le disait dans sa première lettre au chapitre 5, le démon comme un lion qui rugit va et vient à la recherche de sa proie, résistez-lui avec la force de la foi. Vous voyez, la foi en Dieu créateur, donc aucune âme n'appartient à Satan, c'est faux. Les âmes, elles appartiennent à Dieu. Satan essaye de les tenter, de les détourner de Dieu, ça oui, mais lui n'a aucun pouvoir. Il est une simple créature, une créature déchue. Simplement, donc, il est très intelligent et donc il a plusieurs tactiques. Il a plusieurs tactiques qui font que ben, les gens peuvent être de fait trompés ou séduits. Je vous donne juste quelques personnes qu'il peut plus facilement donc tromper ou séduire. Il y a premièrement ceux qui ne cherchent pas la vérité, qui se contentent d'une vie très ordinaire, et qui sont donc pas des chercheurs de Dieu ni des chercheurs de vérité, et de ce fait, ils se mettent en danger. Surtout que Jésus nous a dit que la vérité vous rendra libre. Et Jésus lui-même se présente en disant, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans un des messages que je vous citais, la Vierge Marie invitait à la prudence. Et de fait, ceux qui manquent de prudence, eh bien, eux vont facilement tenter dans des pièges où Satan va se faire passer pour un ange de lumière. Et déjà, le livre des Proverbes nous disait que l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Vous voyez, chers amis, qu'il faut avoir les deux, la simplicité de la colombe et la prudence du serpent, comme disait Jésus à ses disciples quand il les envoyait en mission. Il leur disait, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Comme pour dire que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons voilà, des gens simples, mais que nous soyons aussi prudents. Parce que sans la prudence, eh bien, on peut être égaré. Il y a aussi tous ceux qui manquent, on va dire, un peu de maturité spirituelle et de discernement. Déjà, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, disait que si nous sommes attachés au Christ, alors nous ne serons plus comme des petits-enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées. Vous voyez donc les courants d'idées qui sont véhiculés dans le monde, elles peuvent nous détourner. Et au contraire, il faut vivre dans la vérité de l'amour, nous dit Saint Paul dans cette même épître au chapitre 4, verset 15. Il dit, au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ, en vivant dans la vérité de l'amour. Et pour cela, donc, il faut faire aussi donc attention à ne pas être entêté dans nos erreurs. C'est une autre source d'égarement. Ne pas être non plus endurci dans le cœur. Là aussi, je dis ça parce que, eh bien, l'Écriture déjà nous met en garde. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, Saint Paul parle de toute la séduction qu'il y a dans le mal et il disait, il y a ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. Et quant à nous, nous devons rendre grâce à Dieu, nous, pour vous, à votre sujet, frères, vous qui êtes aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a choisi en premier pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. Voilà, donc toujours être enraciné dans la vérité, et quand on fait une erreur, ce qui arrive à tout le monde, savoir reconnaître nos erreurs et ne pas être endurci, donc entêté dans nos erreurs. Il y a malheureusement aussi ceux qui, justement, ne connaissent pas les Écritures et que ça n'intéresse pas. Ce sont des ignorants et donc ils ne peuvent pas, eux, confronter ce qu'ils vivent ou ce qu'ils voient aux Écritures parce qu'ils ne la connaissent pas et donc ne reçoivent pas de l'Écriture cette puissance de vie qui les aurait éclairés et qui les aurait aidés donc à ne pas tomber dans certains pièges. Il y a aussi malheureusement ceux dont parle Saint Paul toujours dans l'épître aux Éphésiens et qui ont l'intelligence obscurcie. Saint Paul dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et il leur dit aux Éphésiens, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Ils ont l'intelligence remplie de ténèbres. Et l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, c'est quelque chose qui peut donc nous guetter tous, hein, cet endurcissement de cœur. Et Jésus le remarquait aussi chez certains de ses disciples. C'est pourquoi des fois il réagissait très fortement, hein, quand Jésus était, on dit même, navré de l'endurcissement du cœur de certains. Alors la Vierge Marie, face à tout ceci, elle nous dit toujours de choisir la vie. Hein. Choisir la vie. Parce qu'il y a des gens qui, au contraire, font le choix de la mort, du péché et même de la haine, nous dit-elle donc dans le dernier message. Choisir la vie, avoir un rapport à la vie tout à fait particulier, c'est premièrement être conscient que si nous vivons aujourd'hui, c'est déjà parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est-à-dire que notre vie est un cadeau de Dieu. C'est lui qui nous a permis d'accéder à l'existence et il a un plan pour notre vie terrestre et même donc pour l'au-delà, puisqu'il nous attend. Au-delà de cette vie terrestre, à vivre dans la félicité, le bonheur éternel avec lui. Son but pour nous, c'est d'abord que nous apprenions à le connaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire ce Dieu d'amour, ce Dieu qui communique la vie en abondance. Et pour cela, il s'est révélé dans la personne de Jésus, son Fils, qui est venu jusqu'à nous. Jésus qui nous dit, je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie et la vie en surabondance même. Alors, quelquefois, nous sommes appelés à faire des choix dans nos vies et c'est là qu'il faut faire attention pour que ce soit effectivement de choix de vie et de bénédiction. Surtout que déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, nous trouvons cette parole de Dieu qui dit: J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, chers amis auditeurs, que dans cette phrase, Dieu met en relation la vraie vie avec la bénédiction. Et en opposition, on trouve la mort et la malédiction. Et donc, si une personne ne vit pas dans la bénédiction au sens de Dieu, cette personne est tout de suite en danger, et même, on peut dire, en danger de mort. Voilà, Dieu merci, le Christ a vaincu la mort, et c'est pourquoi il nous invite à cheminer avec lui, et cheminer avec lui, c'est toujours entrer sur un chemin de vie, à l'inverse, refuser le Christ, c'est se mettre en grand, grand danger, en danger de mort. Et la Vierge Marie, justement, dans ce message, le dernier message, nous rappelle qu'il y a des gens qui font le choix de la mort et de la haine. Alors, là aussi, il faut être conscient de plusieurs choses. Premièrement, c'est que nous sommes tous capables de haïr. Chaque homme a la possibilité, s'il n'est pas vigilant sur son cœur, sur les pensées qui peuvent entrer dans son cœur, il a cette capacité de mépriser complètement les autres et même de se laisser contrôler par cette mauvaise émotion et des intentions mauvaises. C'est le propre de l'homme. Les animaux, eux, ils peuvent être agressifs, mais ils ne peuvent pas haïr. Les hommes, eux, le peuvent. Je vous cite juste un exemple tiré de l'Évangile. En Saint Marc, au chapitre 3, au début de ce chapitre, nous avons Jésus qui entre dans une synagogue et le texte nous dit, il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, lève-toi, viens au milieu. En s'adressant aux autres, il dit, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère et navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr, nous dit le texte d'Évangile. Faire périr Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a fait une guérison un jour de sabbat. Alors, regardez bien, les pharisiens, ce n'étaient pas normalement des meurtriers. Ce n'est pas du tout leurs intentions. C'était des gens qui cherchaient Dieu et qui étaient même très religieux. C'était les fidèles gardiens de l'Écriture et ardents défenseurs de l'orthodoxie juive. Ils n'aimaient pas beaucoup donc les nouveautés. Ils chérissaient les héros du passé et voulaient ramener le peuple aux jours glorieux des siècles passés, notamment au temps du roi David, en invitant à respecter scrupuleusement la loi de Dieu. Mais vous voyez, dans ce texte d'évangile, nous voyons que leur haine de Jésus a remplacé leur dévotion à Dieu. C'est pourquoi il faut être vigilant parce que ça peut arriver à tout le monde. Alors nous avons la chance, hein, d'avoir une maman qui veille sur nous, quoi, qui a ses mains d'amour qui sont étendues vers nous et qui, dans le dernier message, nous appelle à être nous, ses mains étendues vers ceux qui, eh bien, n'ont pas encore la chance de connaître Dieu, mais qui aspirent à plus de vie. Notre maman du ciel, la Vierge Marie, elle n'est pas seulement la maman de Jésus. À travers le disciple bien-aimé, l'apôtre Jean, elle est devenue la mère de tous les membres du corps mystique de son Fils. Parce que c'est le dernier cadeau que Jésus nous fait sur la croix, c'est voici ta mère. Ceci donc est une invitation à prendre Marie chez soi, dans une attitude d'amour, de confiance, à reconnaître en elle donc la mère du croyant que nous sommes. Elle est aussi épouse du Saint-Esprit et en ce sens, elle nous aide à nous livrer à l'action de l'Esprit-Saint. Elle est même pour nous l'idéal de vie selon l'Évangile. Et donc en la regardant, en la priant, en l'aimant, nous apprenons d'elle à aimer Dieu par-dessus tout, à contempler son Fils, le Verbe incarné, et à aimer nos frères avec son propre cœur. C'est pourquoi elle nous invite à aimer et à être ses mains d'amour tendues vers tous ceux qui le cherchent, nous dit-elle donc dans le dernier message. Du coup, comme conclusion, j'ai envie de dire deux points. Le premier point, c'est donc d'être vigilant parce que nous sommes prévenus maintenant. L'apôtre Pierre, il avait dit, vous voilà prévenus. Dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, nous avons ce texte. Vous voilà prévenus, prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Voilà, être ferme dans la foi. Il nous dit aussi, continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà donc sa finale, qui est une invitation donc à la vigilance, une invitation à continuer à grandir dans la foi, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au mois de mai, nous nous confions donc à la Vierge Marie, qui en tant qu'épouse du Saint-Esprit va aussi donc nous aider à bien nous préparer à la fête de la Pentecôte, pour que nous vivions cette fête vraiment comme un renouvellement, hein, de tout notre être, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, par l'intercession donc de la Très Sainte Vierge Marie. Amen. Fallianissima Maria. Nous sommes dans le mois de Marie et que donc, chers amis auditeurs, voilà, prenez vraiment donc le temps de rencontrer la Vierge Marie dans la prière, à travers donc la prière du chapelet, spécialement donc en ce jour, le premier samedi du mois. Vivez les messages, elle nous invite à les lire tous les jours et à les vivre. Donc, il est bon chaque jour de prendre le livre des messages, de s'en inspirer et de voir comment mettre en pratique ce qu'elle nous demande. Par son intercession, donc, soyez tous abondamment bénis depuis ce lieu saint de Medjugorje. Et préparez-vous aussi donc activement aux grandes fêtes qui viennent, que ce soit l'Ascension et la Pentecôte. Ma recommandation, c'est de vraiment vivre une neuvaine de prières avec la Vierge Marie pour se préparer à la Pentecôte. J'ai le souvenir que dans un des messages, elle disait ça, priez l'Esprit Saint en préparation de la fête et vous ne le regretterez pas. C'est-à-dire que de grandes grâces nous sont aussi accordées par son intercession le jour de la fête de la Pentecôte, qui est la fête de l'Esprit Saint, et Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Voilà, que notre maman, par son intercession, plutôt que notre Seigneur, par son intercession, nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris Barin, qui nous a parlé du message du 25 avril dernier. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.